Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audiolib présente Conte de fées de Stephen King. Traduit de l'anglais par Jean Hesch. Lu par Damien Viteka. En pensant à REH, à ERB et bien évidemment à HPL. Laisse ta conscience être ton guide, la fée bleue. Chapitre 1. Ce foutu pont. Le miracle. Les hurlements. 1. Je suis sûr de pouvoir raconter cette histoire. Et je suis sûr que personne n'y croira. Je m'en fiche. La raconter me suffit. Mon problème... Je parie que beaucoup d'écrivains ont le même, il n'y a pas que les débutants comme moi, c'est de savoir par où commencer. Tout de suite, j'ai pensé au cabanon, parce que c'est là que mes aventures ont débuté réellement. Mais ensuite, je me suis aperçu que je devrais parler de Monsieur Bodditch d'abord, et de la manière dont on est devenu proche. Seulement, tout cela ne serait jamais arrivé sans le miracle qu'a vécu mon père. Un miracle très ordinaire, pourrait-on dire. Un miracle que des milliers d'hommes et de femmes ont connu depuis 1935, mais aux yeux d'un gamin, c'était un miracle. Seulement, ce n'est pas le bon choix non plus, car je ne crois pas que mon père aurait eu besoin d'un miracle sans ce foutu pont. Alors, c'est par là que je dois commencer. Par ce foutu pont de Sycamore Street. Et maintenant, en y repensant, je vois clairement un fil qui traverse les années... jusqu'à Monsieur Bodditch et au cabanon cadenassé derrière sa vieille maison victorienne délabrée. Mais un fil, ça se brise facilement. Alors non, pas un fil, une chaîne plutôt, solide. Et moi, j'étais le gamin qui avait les menottes au poignet. 2. La Little Rumpel River coule à l'extrémité nord de Sentry's Rest, Sentry pour les gens du coin. Et jusqu'en 1996, année de ma naissance, un pont de bois l'enjambait. Cette année-là, les inspecteurs du département des transports routiers l'ont examiné et jugé dangereux. Les habitants le savaient depuis 1982, disait mon père. Si le pont était interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes, les gens de la ville au volant d'un pick-up chargé préféraient souvent l'éviter et prendre la bretelle de l'autoroute. Un sacré détour qui vous faisait perdre du temps. Mon père affirmait qu'on sentait les planches trembler et gronder sous les roues, même en voiture. Ce pont était dangereux, oui, les inspecteurs avaient raison. Mais voilà l'ironie. Si le vieux pont de bois n'avait pas été remplacé par un pont en acier, ma mère serait peut-être toujours de ce monde. La Little Rumpel est une petite rivière, comme son nom l'indique, et la construction du nouveau pont n'a pas duré longtemps. Il a été ouvert à la circulation en avril 1997. Le maire a coupé un ruban, le père Coughlin a béni cette saloperie. Et voilà, m'a raconté mon père un soir. Il était complètement saoul. Pour nous, c'était pas vraiment une bénédiction, hein Charlie? On l'avait baptisé pont Frank Ellsworth, du nom d'un gars d'ici mort au Vietnam. Mais les gens disaient le pont de Sycamore Street. C'était une rue joliment pavée de part et d'autre. Mais le pont, lui... 42 mètres de caillebotis en acier, bourdonnait quand les voitures passaient et vrombissait quand un camion l'empruntait. Ce qui était possible maintenant car il était autorisé aux véhicules jusqu'à 27 tonnes. Ce n'était pas assez pour un semi-remorque, mais de toute façon, il n'y en avait jamais dans Sycamore Street. Tous les ans, le conseil municipal parlait de paver le pont et d'ajouter au moins un trottoir, mais tous les ans, il y avait des dépenses plus urgentes apparemment. Je ne crois pas qu'un trottoir aurait sauvé ma mère, mais un dallage, peut-être. On ne peut pas savoir, hein. Foutu pont. 3. On habitait au milieu de cette longue rue qu'est Sycamore Street Hill, à environ 500 mètres du pont. De l'autre côté, il y avait une station-service épicerie, le Zip Mart. On y trouvait les trucs habituels, de l'huile pour moteur au Wonder Bread ou au gâteau Little Debbie, mais aussi du poulet frit cuisiné par le propriétaire, Monsieur Eliads, que tout le monde par ici appelait Mr. Zippy. Comme l'indiquait la pancarte derrière la vitre, ce poulet était tout simplement le meilleur du pays. Je me souviens encore de son goût. Mais après la mort de maman, je n'en ai plus jamais mangé. Pas un seul morceau. Je me serais étouffé. Un samedi de novembre 2003, le conseil municipal continuait à débattre du dallage du pont pour décider une fois de plus que ça pouvait attendre encore un an. Ma mère nous annonça qu'elle allait chercher du poulet frit aux Zippy pour le dîner. Mon père et moi, on regardait un match de football universitaire à la télé. « Tu devrais prendre la voiture, » dit mon père. « Il va pleuvoir. » « J'ai besoin de faire un peu d'exercice, » répondit maman. « Mais je vais prendre mon imperméable de petit chaperon rouge. » Et c'est comme ça qu'elle était habillée la dernière fois que je l'ai vue. Elle n'avait pas mis la capuche car il ne pleuvait pas encore et ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules. J'avais 7 ans et je trouvais que ma mère avait les plus beaux cheveux roux du monde. Voyant que je la regardais par la fenêtre, elle m'adressa un signe de la main. Je l'imitais puis me tournais de nouveau vers la télé. LSU menait. Je regrette de ne pas avoir regardé ma mère plus longtemps. Mais je ne m'en veux pas. Dans la vie, on ne sait jamais où sont les pièges, hein? Ce n'était pas ma faute, ni celle de papa, même si je sais que lui s'en voulait. Il se disait, si seulement j'avais levé mon cul pour l'emmener en voiture jusqu'à cette foutue épicerie. Et sans doute que ce n'était pas non plus la faute du plombier dans sa camionnette. Les flics ont déclaré qu'il n'avait pas bu. Et lui jurait qu'il avait respecté la vitesse autorisée, limitée à 30 dans notre zone résidentielle. Il avait sûrement raison. Papa, lui, disait que même si tout ça était vrai, l'homme avait dû quitter la route des yeux pendant quelques secondes. Papa était expert auprès d'une compagnie d'assurance. Il m'avait raconté un jour que le seul véritable accident dont il avait entendu parler, c'était cet homme tué par la chute d'une météorite en Arizona. « Il y a toujours un fautif quelque part », déclara-t-il. « Ce qui ne veut pas forcément dire coupable. »« Tu en veux à l'homme qui a écrasé maman ?» Il réfléchit à ma question, porta son verre de gin à ses lèvres et but. C'était 6 ou 8 mois après la mort de maman, et il avait quasiment laissé tomber la bière. Il ne buvait plus que du Gilby's. J'essaie de ne pas lui en vouloir, et la plupart du temps j'y arrive. Sauf quand je me réveille à 2 heures du matin et qu'il n'y a personne dans le lit à côté de moi. Là, je lui en veux. 4. Maman descendit la colline à pied. Un panneau annonçait la fin du trottoir. Elle le dépassa et traversa le pont. Il commençait à faire nuit et à pleuvioter. Elle entra dans la boutique et Irina Eliads, que tout le monde appelait Mrs. Zippy, évidemment, l'informa que le poulet serait prêt dans 3 minutes, 5 au maximum. Quelque part dans Pine Street, non loin de notre maison, le plombier avait terminé son dernier chantier de la journée. Il rangeait sa boîte à outils à l'arrière de sa camionnette. Le poulet frit arriva, tout chaud, tout croustillant, tout doré. Mrs. Zippy en mit 8 morceaux dans une boîte en carton et offrit une aile à maman pour qu'elle la grignote en chemin. Maman la remercia, paya, et s'arrêta devant le présentoir des magazines. Sans cela, elle aurait peut-être traversé le pont saine et sauve, qui sait. La camionnette du plombier avait dû tourner dans Sycamore Street et attaquer la longue descente de plus d'un kilomètre pendant que maman feuilletait le dernier numéro de People. Elle remit le magazine à sa place, ouvrit la porte et lança Mrs. Zippy par-dessus son épaule. « Bonne soirée !» Elle a peut-être hurlé en voyant que la camionnette allait la percuter. Et Dieu seul sait ce qu'elle a pensé à cet instant. En tout cas, ce sont les dernières paroles qu'elle a prononcées. Elle est sortie. La pluie tombait drue maintenant, glaciale. Elle traçait des traits argentés dans la lumière de l'unique lampadaire qui éclairait le pont du côté du Zipmart. Ma mère marchait sur le revêtement métallique en grignotant son aile de poulet. Les phares de la camionnette l'éclairèrent et projetèrent son ombre loin derrière elle. Le plombier passa devant le panneau installé à l'autre extrémité, celui qui indiquait « risque de verglas sur le pont, prudence ». Regardait-il dans son rétroviseur ? Consultait-il son téléphone pour voir s'il avait des messages ? Il a répondu non à ces deux questions. Mais quand je repense à ce qui s'est passé ce soir-là, j'entends toujours mon père dire que le seul véritable accident dont il avait entendu parler, c'était cet homme qui avait reçu une météorite sur la tête. Il y avait assez de place pour passer. Le nouveau pont était bien plus large que le précédent en bois. Le problème, c'était l'écaille bottie métallique. En voyant ma mère au milieu du pont, le plombier freina, non pas parce qu'il roulait trop vite, c'est ce qu'il a prétendu, mais par réflexe. La surface du tablier avait commencé à geler. La camionnette dérapa et pivota en glissant sur le côté. Ma mère se colla contre le garde-corps, lâchant son aile de poulet. Emportée par son élan, la camionnette la percuta et la fit tournoyer contre le garde-corps telle une toupie. Je préfère ne pas penser aux mutilations subies par son corps lors de cette pirouette mortelle. Mais parfois je ne peux pas m'en empêcher. Je sais juste que, pour finir, l'avant de la camionnette l'encastra dans un pilier du pont, du côté du Zipmart. Une partie d'elle tomba dans la Little Rumpel. La majeure partie resta sur le pont. J'ai une photo de nous dans mon portefeuille. Je devais avoir 3 ans quand elle a été prise. Elle me tient dans ses bras, calée sur sa hanche. J'ai la main dans ses cheveux. Elle avait de beaux cheveux. 5. Un Noël de merde cette année-là. Vous pouvez me croire. Je me souviens de la réception après l'enterrement, chez nous. Mon père accueillit les gens. Il accepta leurs condoléances, puis il disparut. Je demandai à son frère, l'oncle Bob, où il était. « Il a été obligé de s'allonger, » répondit l'oncle Bob. « Il était vanné, Charlie. Va donc jouer dehors. » Jamais je n'avais eu aussi peu envie de jouer, mais j'obéis quand même. En passant devant un groupe d'adultes qui étaient sortis eux aussi pour fumer, j'entendis l'un d'eux dire « Pauvre gars, saoul comme une barrique. » Bien que noyé dans mon chagrin, je savais de qui il parlait. Avant la mort de maman, mon père était ce que j'appellerais un buveur régulier. Je n'étais qu'un petit gamin en CE1, alors sans doute qu'il faut prendre cette affirmation avec des pincettes, mais je maintiens. Je ne l'avais jamais entendu avoir la voix pâteuse. Il ne titubait pas, il n'allait pas dans des bars et n'avait jamais levé la main sur maman ou sur moi. Quand il rentrait à la maison avec son attaché case, maman lui servait un verre, un martini généralement. Elle en buvait un, elle aussi. Et le soir, devant la télé, il buvait peut-être une ou deux bières, pas plus. Mais tout changea après ce foutu pont. Il était saoul, comme une barrique, le jour de l'enterrement. Saoul à Noël et saoul le jour de l'an, que les gens comme lui, je l'appris plus tard, appelaient la soirée amateur. Les semaines et les mois qui suivirent la disparition de maman, il était saoul quasiment tout le temps, en général à la maison. Il continuait à éviter les bars. « Il y a trop de connards dans mon genre », me confia-t-il un jour. Il ne levait jamais la main sur moi, mais sa consommation d'alcool était devenue ingérable. Je le sais aujourd'hui. À l'époque, je l'acceptais simplement, comme le font les enfants et les chiens. Je me retrouvais obligé de préparer moi-même mon petit déjeuner 2 matins par semaine, tout d'abord, puis 4, puis presque tout le temps. Je mangeais des Alphabits ou des Apple Jacks dans la cuisine et je l'entendais ronfler dans la chambre. On aurait dit un moteur de bateau. Certains jours, il oubliait de se raser avant de partir travailler. Après le dîner, des plats emportés de plus en plus souvent, je planquais ses clés de voiture. S'il voulait une bouteille pleine, il n'avait qu'à marcher jusqu'aux épis. Parfois, j'avais peur qu'il croise une bagnole sur ce foutu pont. Mais pas vraiment. J'étais certain, presque certain, que mes deux parents ne pouvaient pas se faire tuer au même endroit. Mon père travaillait dans les assurances et j'avais entendu parler des tables actuarielles, le calcul des probabilités. Il connaissait bien son boulot, mon père. Il passa entre les gouttes pendant plus de 3 ans, malgré son problème d'alcool. Est-ce qu'il avait eu droit à des avertissements au travail? Je ne sais pas. Sûrement. Est-ce qu'il s'était fait arrêter par la police pour conduite en état d'ivresse quand il avait commencé à boire l'après-midi? Dans ce cas, peut-être qu'il s'en était tiré avec un simple avertissement, là aussi. Sûrement, car il connaissait tous les flics de la ville. Traiter avec la police, ça faisait partie de son boulot. Au cours de ces 3 années, nos vies suivaient un rythme. Un rythme pas terrible, sans doute, sur lequel vous n'aviez pas envie de danser, mais sur lequel je pouvais me caler. Je rentrais de l'école vers 15h. Mon père débarquait sur le coup de 17h, avec déjà quelques verres derrière la cravate et la laine chargée. Il ne sortait toujours pas dans les bars le soir, mais je découvris plus tard que c'était un habitué de la Duffy's Taverne, où il s'arrêtait après le boulot. Il rapportait une pizza, des tacos ou du chinois de chez Joy Fun. Certains soirs, il oubliait et on commandait un truc. Ou plutôt, je commandais. Et après le dîner, il se mettait à picoler pour de bon. Du gin, principalement. Ou d'autres trucs, quand il n'y avait plus de gin. Parfois, il s'endormait devant la télé. Ou alors, il titubait jusqu'à la chambre, et c'était moi qui devais ramasser ses chaussures et sa veste froissée. De temps à autre, je me réveillais en sursaut en l'entendant pleurer. C'est affreux d'entendre ça en pleine nuit. Tout s'est effondré en 2006, pendant les grandes vacances. Je disputais un match de la Shrimp League à 10h. J'avais réussi 2 home runs et une super réception. Quand je rentrais à la maison, un peu après midi, mon père était là, assis dans son fauteuil. Il regardait la télé, où 2 acteurs d'autrefois se battaient en duel dans l'escalier d'un château. En caleçon, il buvait un liquide transparent qui sentait le guilbis pur à plein nez. Je lui demandais ce qu'il faisait à la maison. Sans quitter le duel des yeux, d'une voix à peine pâteuse, il répondit « Il semblerait que j'ai perdu mon boulot, Charlie. Ou plutôt, pour citer Bobcat Goldsweat. Je sais où il est, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Ou alors, ça va pas tarder. » Je ne savais pas quoi dire, du moins, c'est ce que je croyais, car les mots sortirent de ma bouche malgré tout. « Parce que tu bois. »«
Je vais arrêter. »
Je montrai le verre. J'allais dans ma chambre, claquai la porte et me mis à pleurer. Il frappa à la porte.
« Je peux entrer ?»
Je ne répondis pas. Je ne voulais pas qu'il m'entende chialer.
« Oh, allez, Charlie, j'ai vidé le verre dans l'évier. »
Comme si je ne savais pas que la bouteille l'attendait sur le comptoir de la cuisine et qu'il en avait une autre dans le bar, ou 2, ou 3.
« Allez, Charlie, ouvre-moi. »
Je ne supportais pas de l'entendre manger ces mots.
« Va te faire foutre, papa. »
Je n'avais jamais dit ça à personne. C'était comme si je voulais qu'il entre pour me coller une gifle ou me serrer dans ses bras. Peu importe. Au lieu de ça, je l'entendis retourner dans la cuisine en traînant les pieds, là où l'attendait la bouteille de Gilbise. Quand je ressortis enfin de ma chambre, il dormait dans le canapé. La télé était toujours allumée, mais sans le son. C'était encore un vieux film en noir et blanc, avec des vieilles voitures qui traversaient à fond un décor de cinéma, ça se voyait. Papa regardait toujours TCM quand il picolait. Sauf quand j'étais là et que j'insistais pour regarder autre chose. La bouteille trônait sur la table basse, presque vide. Je versais ce qui restait dans l'évier. J'ouvris le bar et envisageais de vider toutes les bouteilles. Mais en voyant le gin, le whisky, les mignonnettes de vodka, la liqueur de café, je me sentis fatigué. Vous n'imaginez pas qu'un gamin de 10 ans puisse être fatigué à ce point. Eh bien si. Je mis un plat surgelé Stuffers dans le micro-ondes pour le dîner, le poulet rôti grand-mère, notre préféré, et secouai mon père pour le réveiller pendant que le plat réchauffait. Il se redressa, regarda autour de lui comme s'il ne savait pas où il était, et se mit à produire d'horribles allaitements que je n'avais jamais entendus. Il zigzagua jusqu'à la salle de bain, les mains plaquées sur la bouche, et je l'entendis vomir. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais s'arrêter. Mais au bout d'un moment, si, quand même. Le four à micro-ondes sonna. Je sortis le poulet rôti grand-mère en me servant des gants qui disaient « bonne cuisine » sur celui de gauche et « bon repas » sur celui de droite. Si un jour, vous oubliez de prendre les gants pour sortir un truc chaud du four, vous ne les oubliez pas deux fois, croyez-moi. Je versais un peu de hachis de poulet dans nos assiettes et retournais dans le salon où mon père était assis dans le canapé, tête baissée, les doigts entrelacés sur la nuque. « Tu peux manger ?» Il leva la tête.
« Peut-être, si tu m'apportes de l'aspirine. »
La salle de bain empestait le gin et autre chose. Peut-être le dip aux haricots blancs, mais au moins, il avait vomi dans la cuvette et tiré la chasse. J'aspergeais du Glade un peu partout et lui apportais le flacon d'aspirine avec un verre d'eau. Il en avala trois et posa le verre d'eau à la place de la bouteille de Gilby's. Il me regarda avec une expression que je ne lui avais encore jamais vue, pas même après la mort de maman. Ça me fait mal de dire ça, mais je le dis quand même, car c'est ce que j'ai pensé. Il avait la tête d'un chien qui a chié par terre.
« Je pourrais manger si tu me fais un câlin. »
Je le serrai dans mes bras et dis que je regrettais mes paroles.
« C'est rien. Sans doute que je le méritais. »
On passa dans la cuisine et on mangea ce qu'on pouvait du poulet rôti grand-mère, c'est-à-dire pas grand-chose. Pendant qu'il raclait nos assiettes dans l'évier, il m'annonça qu'il allait arrêter de boire, et ce week-end-là, il tint parole. Il déclara aussi qu'il chercherait du travail dès le lundi, mais il ne le fit pas. Il resta à la maison à regarder des vieux films sur TCM, et quand je rentrais de mon entraînement de la Little League et de ma séance piscine au YMCA, il était bourré de nouveau. Voyant que je le regardais, il secoua la tête.
« Demain ! Demain, promis juré !»«
Te fatigue pas, » répondis-je, et j'allais dans ma chambre.